Jules Janin, la première soutane. En même temps, il avançait là-bas, sous les grands peupliers, et après avoir descendu la colline, il se trouva sur le bord de la rivière, où le bac se balançait mollement sur les ondes, vertes et transparentes, attendant que l'heure fût venue pour lui de porter le dîner aux laboureurs de la rive opposée. Qui n'a pas vu un bac villageois, ce large bateau au niveau de l'onde, fixé dans l'air par une corde, ce pont ambulant, chargé d'hommes, de bestiaux, de charrues, d'enfants qui jouent, toute la fortune d'un village. C'est un repos dans le jour. Le pont flottant se met en route au premier chant du coq et il revient le soir à la clarté des étoiles. Le batelier le fixe sur la rive et tout est dit. Voilà, jusqu'à demain, un coin de terre séparé du reste du monde. L'air s'est abaissé, le pont-levis se lève, innocente défense de cette féodalité champêtre dont un pâtre est le seigneur. Pour le moment, le vaisseau était à l'ancre. Le gouvernail flottait indécis. La batelière était assise sur un banc de poupe occupé à voir couler l'eau. La batelière était grande et robuste, aux bras brunis par le hâle, rude main, visage noir, blanches dents, et le vieux chapeau de paille, et le mouchoir rouge, et autour d'elle cette délicieuse odeur de goudron, préférable mille fois à toutes les senteurs qui couvrent notre petit maître de Paris. « Mon Dieu, monsieur, » dit la batelière, « oh, je ne puis vous faire passer maintenant, à présent. L'Angélus va sonner dans un petit quart d'heure. Et mon petit Jean, qui rame pour son père, est allé me chercher à dîner. Alors, je suis seul, j'attends le passage de midi. Eh bien, ma bonne dame, dit Anatole, j'attends l'Angélus, votre petit Jean. Vous l'aimez bien, votre petit Jean, n'est-ce pas? Ah, monsieur, mon pauvre petit Jean, mais c'est un homme pour moi. Il n'a pas 10 ans et déjà il remplace son père. Ça travaille et ça chante à faire plaisir. Il s'éveille le premier le matin et il se couche le dernier après avoir chanté toute la journée. Sans notre Jean, mon mari et moi, nous serions morts de faim cet hiver avec le chagrin de l'autre enfant. Ah, vous avez un autre enfant, bonne femme, reprit Anatole. Et celui-là, qu'a-t-il fait, je vous prie, pour vous donner tant de chagrin? Hélas, reprit la batelière, c'est une histoire. Mon aîné était prêtre, monsieur, et il ne l'est plus. Et nous ne savons pas qu'en faire à présent. Et comment cela est-il arrivé dit le jeune homme. Racontez-moi, je vous prie, votre femme. Ça m'intéresse, au dernier point. Mais c'est l'orgueil qui nous a perdus, monsieur. Vous voyez d'ici cette petite maison, la blanche là-bas auprès de la soleil. Et nous avons hérité de cette maison et de 5 journaux de terre. Oh, nous aurions été riches avec cela. Mais j'ai eu l'idée de faire un curé de mon Ambroise. J'ai voulu avoir un fils qu'on salue, qui fût salué à son tour, qui alla dîner au château, qui dit la messe. Alors nous avons vendu cette jolie maison et ces 5 journaux de terre pour faire étudier notre enfant. Oh, il lisait dans tous les livres. Il était déjà rasé. Il allait entrer vicaire quelque part. Quand un grand malheur est arrivé pour notre pauvre enfant. Qu'en voyez-vous, monsieur? Je ne puis pas croire qu'il ait été criminel. Il était un jeune homme, oui, certes, mais brave et honnête. Il n'a jamais été fier avec son père. Il dînait tous les jours avec nous quand il venait en vacances. Oh, maudite robe noire, que tu nous as fait de mal! La pauvre femme se désolait. Et elle reprenait son récit, voyant qu'Anatole l'écoutait toujours. L'automne passé, la pêche avait été bonne. Elle avait fait gagner notre bac, si bien que nous avions ramassé, mon mari et moi, mon petit Jean et moi, 12 petits bons écus, bon argent. « Femme, dit un soir mon pauvre homme, ce soir-là le vent soufflait, la rivière grondait, les feuilles jaunes frappaient contre nos vitres. Femme, voici 12 bons écus qui nous serviront à passer l'hiver. Que ferons-nous de ces 12 écus ?» Jean ne répondit pas, et moi non plus. Nous avions déjà employé cet argent dans notre pensée, mon fils et moi. Peut-être, reprit notre homme, voyant qu'on lui répondait peut-être pas, peut-être ferions-nous bien d'acheter un porc à notre voisin Jean-Pierre. Le petit porc nous conviendrait. Il est gros et gras et prêt à tuer. Nous le salerons, nous le fumerons, et nous aurons cet hiver quelques joies dans nos repas. Et nous ne serons pas réduits à la misérable nourriture de l'hiver passé. Oh, non pas que je parle pour moi, femme, mais pour toi et pour notre petit Jean, qui est dans la croissance et qui a besoin de manger un peu de viande tous les jours. Cette dernière raison me fit mal. Mon dernier enfant avait bien souffert que je n'avais rien à répondre à son père. Mais le petit Jean reprit aussitôt, « Papa, n'achète pas le porc à Jean-Pierre. Je vis fort bien sans manger de la viande, moi. Tout le monde dit que je suis aussi grand que toi. Je sais bien, si tu voulais, ce que tu devrais faire de nos 12 écus. Et quoi donc, dit mon homme? Quoi donc, si ce n'est que nous mettre un peu à l'aise, t'acheter une veste neuve, à toi, mon enfant, qui est presque nu, les sabots à ta mère, et un peu d'eau-de-vie pour moi, pour me réchauffer, quand je vais pêcher dans l'eau jusqu'aux genoux. Je n'osais pas répondre aux raisons de mon pauvre homme. Mais j'en vins à mon secours. Père, dit-il en se levant, mon aîné est prêtre. Il n'a pas de robe noire, pas de chapeau à trois cornes. Il lui faut acheter un chapeau à trois cornes et une robe noire. Nous mangerons encore du pain cet hiver. Et ma mère me raccommodera ma jaquette. Oh mon Dieu, que mon Jean était beau en parlant ainsi. Oh, plus encore, monsieur. Fils, dit le père, je n'ai rien à refuser, excepté cette robe noire. Les 12 écus sont pour toi, pour ta mère et pour moi, oui, pour ta mère et pour toi, enfant, et pour ton père. Ton frère est bien nourri, bien chauffé. Il a un lit, des draps et autant de couvertures qu'il en veut. Et nous nous couchons sur la paille, recouverts de nos habits d'été. Il ne jeûne que pendant 40 jours. Et nous passons toute l'année, nous, à jeûner. Nous, nous serions bien heureux de dîner comme lui, à ses jours de jeûne. Allez, qu'on ne me parle plus de cette robe et de ce chapeau. Qu'on ne m'en parle plus, femme, je n'en veux plus. Hélas, dis-je à notre homme, il lui faut plus que cette robe et ce chapeau pour être prêtre. Encore de sacrifices, mon homme, encore l'hiver à passer. Aimes-tu donc mieux voir au manteau de la cheminée un morceau de lard que de voir ton fils plus haut que les chantres de l'église et donnant sa bénédiction? Oui, père, reprit Jean. On méprise mon frère. On lui demande où est sa robe. Il faut qu'il ait une robe, mon père. Donne-lui les 12 écus. Et le père reprenait. Mais si je donne ces 12 écus, c'est notre mort. Allez, prends ces 12 écus. Allez, prends-les, Jean. Je te les donne. À toi, et non à ton frère. Ton frère nous a ruinés. Nous avons tout vendu. La vigne de mon oncle Robin. La maison de la vigne de mon frère Richard, toute notre fortune a passé dans le séminaire. Tu verras, mon fils, qu'il faudra que je vende mes filets et mon bac. Puis, se retournant vers moi, femme, femme, disait-il. Nous aurons un prêtre au lit de mort, peut-être. Puis il tira de la paillasse les 12 écus et il les compta un à un. Il en compta 11 en soupirant. Et il s'arrêta au 12e écu. « Jean, dit-il, voilà un écu qui sera pour toi. Je veux que le dépenser pour toi, Jean. Tu achèteras de la galette, des dragées, des pruneaux de Tours, du sucre d'orge, un couteau à tire-bouchon, enfin, toutes sortes de bonnes choses. Les roches de ton frère sont plus chères, mon enfant. Allons, prends cet arrécu. Il ne soit pas dit que tu sois le seul qui n'ait pas perdu mon argent. Dépense quelque chose, Jean, pour ne pas faire rougir ton frère. Allons, mon fils, viens à la fête, tu danseras et tu donneras 10 sous pour la contredanse. Et mon pauvre homme prit son fils dans ses bras, le baisa en pleurant, tenant toujours son dernier écu. Ah, monsieur, qu'il en coûte bien cher de faire un prêtre. On dit aux parents, oh, ça ne vous coûtera rien. Et à chaque instant, il faut payer quelque chose. Il faut donner son pauvre argent à un homme qui ne vous dit même pas merci. Et on vit de pain, et on laisse son bac prendre l'eau. Et tout en parlant, la pauvre femme retirait d'une de ses rames pour rejeter l'eau qui se faisait jour à travers les fentes du bateau. Et en même temps, accourait le petit Jean. Il était couvert de sueur et tout essoufflé. Il apportait le dîner de sa mère. Le pauvre enfant était nu, pieds, en guenilles, un mauvais chapeau d'homme sur la tête et ses yeux couverts par ses cheveux qu'il écartait de temps à autre. « Ah, voici Jean !» dit la mère à Anatole. Et Anatole regardait avec attendrissement et respect. « Jean, dit la bonne femme, pendant que je mange, raconte à monsieur l'histoire de notre abbé, ton frère. Et surtout, ne pleure pas, mon fils, ne pleure pas, cela me fait tant de mal. » Jean mit son chapeau par terre, puis ayant relevé ses cheveux et essuyé son nez avec son bras. « Mon pauvre frère, dit-il, m'a raconté cette histoire 3 fois, monsieur. Il a été tenté par le diable. Le jour où il a commencé à gagner de l'argent d'argent pour aller commander sa soutane, car mon frère gagne de l'argent, monsieur. Il fait des messes et des enterrements. Et il nous a fait souvent passer de l'argent à moi, des habits. Et c'est lui qui m'a donné les souliers que j'ai à la maison et le chapeau que voilà. Il est très bon pour nous. Mon frère. » Ce mensonge héroïque fut débité d'un grand sang-froid par l'enfant qui regardait sa mère d'un œil suppliant de peur d'être démenti. « Voilà donc, reprit Jean, ce que je sais de ce malheur. Mon frère n'était jamais sorti du séminaire. Il n'avait jamais traversé ces rues de Paris, toutes pleines d'iniquité. Il était pur et innocent, mon frère. Ce jour-là, il allait commander une robe. Il avait pris 12 écus sur son argent. Alors il monte chez la femme qui fait les robes sacrées du séminaire. Il frappe à la porte et il est reçu par une petite fille qui vient lui ouvrir. Voilà. Comme mon frère, qui est pourtant un abbé, tonsuré, et que la vieille vit que la vieille habilleuse n'y était pas, et qu'au contraire que c'était la petite, il s'est mis à vouloir redescendre. Mais il n'osa pas, et il entra, le malheureux, quand elle lui dit « Mais entrez, s'il vous plaît. Donnez-vous la peine d'entrer, monsieur l'abbé. » Anatole écoutait de toute son âme le récit de Jean. Sa bonne mère, qui savait si bien cette histoire, prêtait aussi l'oreille, oubliant même d'achever son frugal repas. Et Jean reprit. Elle dit donc à mon frère, « Entrez !» Il entra. « Que voulez-vous, monsieur l'abbé ?»« Je voudrais une robe, mademoiselle, » dit-il. Et voilà ce qu'elle reprit. « Oh, ça se peut. Comment voulez-vous votre robe, monsieur l'abbé ?» Et elle disait toujours, « Monsieur l'abbé, monsieur l'abbé. » « Bien, je voudrais, dit mon frère, une robe pour 9 écus. » Il gardait 2 écus pour un chapeau doublé de soie, violette pour se présenter. « Ah, oh, pour 9 écus, dit la petite, vous n'aurez pas un beau drap. Un beau ruban moiré, un rabat très fin, une culotte large. C'est à peine si vous aurez un petit manteau comme aux pompes funèbres. Cependant, vous pouvez être assez propre à ce prix-là. Il s'agit de savoir comment vous voulez qu'il soit fait. Mais, reprit mon frère, comme on fait les robes des autres prêtres pour 9 écus. J'entends bien, dit la petite. Mais il faut que votre robe soit à la mode, qu'elle laisse voir votre jambe, que le cordon soit relevé autour des reins et vous prenne bien la taille. Un petit peu comme ma ceinture, regardez-moi. Mon frère, qui n'avait pas encore levé les yeux, les leva par malheur. Il m'a juré, monsieur, que cette petite habilleuse était brûlante de feu. Il ne lui vit pas de ceinture. Il ne vit rien qu'une tête infernale. Ses mains brûlèrent. La fille continuait toujours. « Voyons, disait-elle, votre ceinture montera là. » Et elle appuya un doigt sur sa poitrine, lourd comme le doigt de Satan. Elle resta ainsi 2 minutes, suivant mon frère du regard. Alors mon frère fut tout à fait ébloui. Il chancela. Il voulut s'appuyer. Il s'appuya. Il ne sut pas sur quoi. Mais il sentit sous ses deux mains la ceinture dont l'habilleuse lui avait parlé et qui n'avait pas vu d'abord. Il sentit sous sa main droite quelque chose qui battait, et au-dessus de chaque main, un mouvement convulsif. C'était un miracle de l'esprit des ténèbres, un fantôme. Et mon pauvre frère pense à mourir. La petite fille oublia ses robes sacrées. Elle ne parla plus à mon frère, et mon frère ne lui parla plus. Il sentait ses pieds cloués à la terre. Il serait encore là si la vieille habilleuse n'était pas rentrée brusquement. Le charme cessa, et mon frère, qui se croyait possédé, rentra au séminaire, ne songeant pas plus à la robe que s'il en avait eu deux. Un jour après, le supérieur a renvoyé mon pauvre frère, sans pain, sans chaumière, sans même avoir un métier. Mon père ne veut pas voir mon frère. Et mon frère est oisif, comme s'il ne cessait jamais dimanche. Il dit qu'il n'est bon à rien. Et sa robe s'est usée depuis ce temps. Cette robe bien faite, si bien faite, ce cordon si bien placé. Et ici, l'enfant pleura. La mère versa une larme. L'Angélus sonna. Les femmes des bateleurs remplissaient le bac. Le bateau se mit en route. Il toucha la rive opposée et les deux grands arbres qui forment la limite. Anatole embrassa l'enfant. « Remets à ton père ces 12 écus de ma part, mon enfant. » Et il suivit sa route, en songeant qu'il donnerait ce pauvre abbé à la première femme de connaissance qui aurait besoin d'un lecteur. Cette fois-ci, sa robe lui servira comme sert une livrée, pensa-t-il.